Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, bienvenue à cette édition du jeudi 5 décembre 2019 en direct de Washington, Nanite Talani
et Michel Joseph.
Voici les titres que nous allons développer ce matin.
Au Mali, deux organisations armées émettent des conditions pour reprendre part au dialogue politique.
Au Tchad, Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme, désormais accusé de complicité de meurtre.
Au Mozambique, condamnation à 16 ans de prison de 10 braquages.
Lueur d'espoir de paix pour l'Afghanistan, les États-Unis s'apprêtent à reprendre les pourparlers de paix avec les talibans.
Ici aux États-Unis, l'université new-yorkaise Columbia va offrir des bourses à des réfugiés.
Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports.
Et pour l'instant, le journal.
Au Mali, deux organisations armées ont émis leurs conditions pour reprendre part au dialogue politique qui vise à dégager des réponses politiques à la grave crise que traverse le pays. Le point avec Eric Manerakiza.
La principale formation d'opposition refuse d'y participer. La coordination des mouvements de la Zawad, CMA, ex-rébellion à dominante Touareg, et la plateforme composée de groupes armés pro-gouvernementaux se sont elles aussi dissociées. Elles estiment que le président Ibrahim Boubacar Keïta a tenu samedi des propos ouvrant la porte à une remise en cause de l'accord de paix d'Alger. Le président Ibeka a mis sur les rails, en mai, un dialogue national dit inclusif, censé mettre les Maliens autour de la table et établir une feuille de route. Mais après des mois de consultations, cette initiative piétine. Des invitations avaient été émises pour réunir le 11 décembre le comité de suivi de l'accord d'Alger. La suspension des réunions de ce comité depuis des mois est considérée comme un autre motif de pessimisme. Dans un communiqué conjoint publié hier, les deux organisations disent qu'elles n'émettent pas d'objection à un éventuel retour au dialogue, mais elles ajoutent que l'accord d'Alger ne peut être modifié qu'avec le consentement express de tous les signataires. Elles réclament la création dans les meilleurs délais d'un cadre approprié pour discuter des modalités de leur participation.
L'armée congolaise a affirmé mercredi avoir retrouvé le corps d'un casque bleu de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, près de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un camp des ADF, rebelles ougandais, conquis par l'armée, nous avons retrouvé les restes d'un casque bleu tombé au champ d'honneur, a déclaré le général Léon Richard Kasanga, porte-parole de l'armée congolaise, lors d'une conférence de presse. Côté ONU, on indique que le pays d'origine et la famille doivent être officiellement informés et l'identification va prendre du temps. Donc, on ne va rien confirmer avant longtemps.
Toujours en RDC, un centre de santé situé à proximité d'un centre de traitement d'Ebola et une installation de Médecins sans frontières ont été attaqués à Biakato, mine dans l'est du pays. Les assaillants, armés de bâtons et de machettes, ont provoqué des dégâts matériels sans faire de blessés. L'ONG ajoute qu'elle retire tous ses effectifs non congolais de cette zone où une attaque armée a tué trois agents congolais d'une équipe anti-Ebola il y a une semaine.
Une visite historique et une annonce symbolique, les États-Unis ont donné hier le coup d'envoi à une amélioration spectaculaire de leurs relations avec le Soudan en apportant un soutien appuyé à la transition démocratique de ce pays, toujours formellement accusé par Washington de soutenir le terrorisme. Des détails avec Irénée Herman Umbo.
Les deux pays ont décidé d'engager le processus visant à échanger des ambassadeurs après une pause de 23 ans. Un ambassadeur américain va donc être nommé à Khartoum. Cette décision est un pas en avant dans le renforcement des relations bilatérales américano-soudanaises, particulièrement au moment où un gouvernement de transition dirigé par un civil met en œuvre de vastes réformes, a indiqué le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. L'annonce du renforcement des relations intervient en plein déplacement à Washington du premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. C'est la première fois depuis 1985 qu'un chef d'État ou de gouvernement soudanais est accueilli par des responsables du gouvernement américain dans la capitale fédérale. Au département d'État, il a été reçu hier par le numéro 3 de la diplomatie américaine, David Haley, qui l'a félicité et a exprimé le soutien sans faille des États-Unis à la transition démocratique soudanaise. Il a appelé à terminer de mettre en place les institutions de transition partition et il lui a demandé l'aide de Khartoum dans le processus de paix chaotique au Soudan du Sud voisin, où le gouvernement américain a récemment haussé le ton contre les belligérants incapables de se réconcilier.
Le candidat de l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud a décroché le poste de maire de Johannesburg lors d'une élection partielle. C'est une défaite cuisante pour l'opposition qui occupait ce poste depuis 2016. Le point avec John Linnon.
Geoff Makubo, candidat de l'ANC, a obtenu 137 voix contre 101 pour le candidat de l'Alliance démocratique et 30 pour celui des combattants pour la liberté économique lors d'une réunion du conseil municipal. Il vient remplacer Herman Mashaba, membre de l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, qui a démissionné en octobre, reprochant à cette formation son approche de la question raciale, toujours sensible dans le pays. Johannesburg se retrouve de nouveau entre les mains de Geoff Makubo et des pilleurs professionnels de l'ANC, a réagi le parti d'opposition en référence aux soupçons de corruption qui planent sur le nouveau maire, qui est aussi un homme d'affaires. L'ANC, par la voix de son porte-parole, Pula Mabé, insiste sur le fait que Makubo n'a jamais été reconnu coupable. L'Alliance démocratique a perdu la mairie de Johannesburg et de Port Elizabeth et son maire à Pretoria a été suspendu à cause d'un scandale. Lors des dernières législatives du mois de mai, ce parti a également perdu du terrain, ce qui a conduit fin octobre son patron, Muzi Maiman, à la démission. Il était le premier noir chef de l'opposition sud-africaine. Il a été remplacé par John Steenhuisen, un blanc qui assure actuellement l'intérim à la tête du parti.
Au Mozambique, 10 braconniers ont été condamnés à 16 ans de prison, chacun pour avoir braconné sur les terres d'un parc national, ont annoncé les juges. Les braconniers condamnés faisaient partie d'un groupe de 12 hommes arrêtés en juin au cours d'une opération anti-braconnage dans le parc national Gorongosa, situé dans la province de Sofala, dans le centre. Selon la justice, les braconniers avaient agi contre les efforts du gouvernement du Mozambique pour protéger l'environnement. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En France, top départ d'une mobilisation qui s'annonce massive contre la réforme des retraites. Trains, métro ou bus bloqués, cols fermés et près de 250 manifestations organisées. Syndicats, partis d'opposition et gilets jaunes engagent ce jeudi avec le gouvernement français un bras de fer autour d'un projet de réforme des retraites, promesse phare du président Emmanuel Macron.
L'ancienne ministre française des Affaires européennes, Marielle de Sarnez, qui est vice-présidente du MoDem, parti allié à la République en marche d'Emmanuel Macron, a été inculpée mercredi pour détournement de fonds publics dans une enquête sur des emplois présumés fictifs d'assistants de députés européens du parti centriste MoDem, selon une source proche du dossier.
Les États-Unis s'apprêtent à reprendre les pourparlers de paix avec les talibans afghans 3 mois après que le président Donald Trump les a suspendus. L'espoir est de ramener la paix en Afghanistan, des précisions de Timothée Donongmaï.
Si fort de cette relance des efforts diplomatiques en Afghanistan, l'arrivée mercredi à Kaboul du principal négociateur américain. Zalmay Khalilzad aura des entretiens avec les responsables gouvernementaux afghans et les représentants des insurgés talibans. Selon un communiqué du département d'État, Khalilzad se rendra ensuite à Doha, au Qatar, pour se joindre aux discussions visant à lancer des négociations directes inter-afghanes. Il s'agira spécifiquement de parvenir à une réduction de la violence qui aboutirait à un cessez-le-feu, indique le communiqué sans préciser la date d'arrivée du négociateur américain à Doha. Citant une série d'attaques des talibans qui avaient coûté la vie à un soldat américain, le président Donald Trump avait suspendu les discussions avec les insurgés afghans le 7 septembre dernier. Les deux parties étaient à l'époque proches d'un accord qui aurait permis un retrait progressif des troupes américaines déployées en Afghanistan.
L'université new-yorkaise Columbia va intégrer jusqu'à 30 étudiants réfugiés aux États-Unis, dont les frais de scolarité et d'hébergement seront intégralement pris en charge. Ce programme constitue le prolongement d'initiatives entreprises dès 2016 et qui avait déjà vu 7 étudiants syriens rejoindre la prestigieuse faculté. seront éligibles les personnes déplacées et ayant quitté leur pays d'origine depuis au moins 2 ans, mais moins de 10 ans, et dont les études supérieures ont été interrompues par un événement extérieur, guerre, catastrophe naturelle.
Et puis voilà pour le journal. À présent, l'essentiel de l'actualité économique en Afrique qui vous est présenté ce matin par Irénée Herman Mbo.
Au Togo, les recettes non fiscales recouvrées par l'État se chiffrent à 46,64 milliards de francs CFA contre une prévision annuelle de 80,40 milliards de francs CFA. Ces entrées, qui sont en hausse de 4,18% en glissement annuel, sont donc recouvrées à un peu plus de la moitié de ce qui est attendu en 2019. Au Burkina Faso, la croissance économique devrait rester supérieure à 6% jusqu'en 2022 selon un rapport de la société de notation Standard & Poor's. D'après l'institution, cette croissance devrait être tirée par les bonnes performances des secteurs miniers et agricoles qui, malgré les risques climatiques et sécuritaires, seront les deux principaux moteurs de la croissance au cours des prochaines années. L'économie sud-africaine s'est contractée de 0,6% au troisième trimestre, enregistrant une deuxième baisse trimestrielle du PIB cette année, a annoncé le Bureau national des statistiques. Des bailleurs internationaux et acteurs privés réunis à Paris se sont engagés à investir quelque 3,9 milliards d'euros dans un plan de développement des Comores, petit archipel pauvre de l'océan Indien.
À présent, la page sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Pour commencer, la short list révélée pour le joueur africain de l'année.
Oui, de 30, il ne sont plus que 10 joueurs en lice pour le prix de joueur africain de l'année. On y retrouve les favoris Sadio Mané et Riyad Mahrez, Ismaël Benasser, meilleur joueur de la CAN 2019, avec le Nigérian Odion Ighalo, le Camerounais André Onana ou encore le Sénégalais Kalidou Koulibaly, le Marocain Hakim Ziyech, l'Égyptien Mohamed Salah, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et l'Algérien Youssef Belaïli sont aussi sur cette shortlist. Chez les dames, entre autres prétendantes, les Camerounaises Njoya Adjara Nchout et Gabrielle Ongéné, la Nigériane Aziza Oshoala, la tenante du titre sud-africaine Thembi Nkatlana et la Malawite Tabitha Shawinga. Les lauréats seront désignés le 7 janvier prochain au Caire, en Égypte.
Le PSG signe un partenariat touristique avec le Rwanda.
Le Paris Saint-Germain a officialisé un partenariat de 3 ans avec le Rwanda, un contrat dont le montant n'a pas été révélé et qui engage le club à promouvoir le tourisme dans ce pays d'Afrique de l'Est. Le double champion de France est le second club à s'engager dans la campagne Visite Rwanda après Arsenal qui a signé un tel partenariat en mai 2018. Cet accord prévoit que des joueurs du PSG se rendent au Rwanda en relatant leur visite sur les réseaux sociaux. Ils porteront la marque Visite Rwanda au dos de leur tenue d'entraînement et d'avant-match. Le slogan sera aussi visible sur la manche des maillots de l'équipe féminine.
La Ligue des champions féminines adopte la phase de poule.
Ça se fera à partir de l'édition 2021-2022 sous la forme d'une phase de poule qualificative pour les quarts. Le comité exécutif de l'UEFA a validé le principe d'une phase de groupe à 16 avec 4 poules de 4 équipes qui s'affrontent en match aller-retour. Un système similaire à celui pratiqué chez les messieurs, lancé en 2001 sous le nom de Coupe féminine de l'UEFA. La Ligue des champions dames présente pour l'heure un format avec un tour préliminaire sous forme de poule, puis un tableau principal débutant à partir des 16e de finale, dont les affiches sont souvent trop déséquilibrées et de faible intérêt sportif.
Yakuba, pour terminer, le TAS confirme la suspension de l'Égypte qui sera absente des Jeux olympiques.
Le tribunal arbitral du sport a confirmé la suspension pour 2 ans de la Fédération égyptienne d'haltérophilie pour des cas de dopage. Cette décision privera les haltérophiles égyptiens des prochains Jeux olympiques de Tokyo 2020. La fédération égyptienne avait été suspendue pour 2 ans en septembre, ce qui l'avait privée des championnats du monde en Thaïlande. Cette suspension fait suite à une série de 7 contrôles antidopage positifs chez des jeunes haltérophiles en 2016. C'est un coup dur pour ce pays auquel l'haltérophilie a rapporté 31 médailles au cours de ses 22 participations aux Jeux olympiques. L'Égypte a obtenu 2 médailles de bronze aux JO de Rio en 2016 grâce à Mohamed Ehad Mahmoud, également champion du monde, et Sarah Ahmed chez les dames.
NBA, Golden State, Charlotte, 91-106, Milwaukee, Detroit, 127-103, Phoenix, Orlando, 114-128, Brooklyn, Atlanta, 130-118, Miami, Boston, 93-112, Chicago Bull, Memphis, 106-99, Indiana, Oklahoma City, 107-100, Minnesota, Dallas, 114-121 et enfin, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, 121-96 et Portland Sacramento, 127-116. Vous êtes toujours à l'écoute du Monde d'aujourd'hui en direct de Washington, Nani Talani. C'est le moment d'aborder notre tranche magazine. Suite à N'Djamena Oudjiad de l'affaire Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme, la CTDH, une requalification des faits l'accuse maintenant de complicité de meurtre. Timothée Dongomaï a joint à N'Djamena la militante des droits de l'homme, Céline Narmadi.
Au lieu de continuer avec la première déposition pour diffamation, là, ils ont requalifié les faits par rapport à un de ces militants qui a commis l'homicide en 2014 avant de s'adhérer en 2016 à la CTDH. Donc, ils disent comment ils acceptent l'adhésion des criminels. C'est une association de malfaiteurs ou quoi, nous on ne sait pas, mais ils ont qualifié, requalifié pour nous envoyer chez le juge d'instruction qu'il l'accuse de meurtre et complicité de meurtre. Tout le monde est tombé de nu. Au moment où le collectif des barreaux international des barreaux est en train de tenir la 34e session ici au Tchad, allez-y voir l'image de ce pays. Et une grande partie des participants à cette réunion-là ont désisté pour être avec nous jusqu'à ce qu'on vienne de se séparer.
Oui, qu'est-ce que cela signifie pour la suite?
C'est une injustice, c'est une cabale contre un innocent parce qu'il a dénoncé les mauvaises pratiques des clans au pouvoir qui a l'habitude de torturer les gens comme il veut. Ils ont des jardins pour torturer les gens. Et dans le Wadaï, tous les gens disent ça. Hein? Les gens vivent la torture au jour le jour par rapport à un des neveux du président de la République. Ibedou communiquait à chaque fois sur ces cas-là. Et c'est parce qu'il communiquait sur ces cas-là, il a été menacé ouvertement, même sur les réseaux sociaux, qu'ils vont avoir sa peau.
Selon certaines sources, Céline, les personnes défendues par Ibedou se sont rétractées disant qu'elles n'ont jamais été victimes d'abus.
Quand la personne est dans cette zone-là, la zone de l'est du pays-là, où on a instauré l'état d'urgence, on a permis à ceux qui exercent ces activités en cette période-là de tuer. Le permis de tuer a été délivré par Déby lui-même. Quand il a dit qu'il y a un conflit, il a tué 10 de l'autre côté, 10 de l'autre côté. Comment on peut justifier les humains, on peut justifier cela en demandant aux forces d'insécurité là d'abattre les gens parce qu'ils sont en conflit.
La militante des droits de l'homme, Céline Narmadi, joint N'Djamena. On note qu'en novembre dernier, la CTDH, dans un de ses communiqués de presse, avait dénoncé les violations flagrantes des droits de l'homme commises par M. Bokit Bahar Mahatma Itno sur des paisibles citoyens dans la localité du Wadaï, située suite à l'établissement de l'état d'urgence dans le nord-est du Tchad.
C'est 93.1 FM au Tchad.
Destination Sénégal. Un tribunal a condamné à 2 ans de prison avec sursis le marabout Cheikhou Naguey, maître d'une école coranique où des élèves étaient enchaînés. Ces 5 co-prévenus ont également été reconnus coupables et écopent de la même peine. Dans cette affaire semblable à plusieurs cas d'école coranique révélés notamment au Nigeria. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Dakar le journaliste Alassane Sombadiop.
D'abord, il faut dire que enchaîner des talibés, c'est une longue pratique traditionnelle qui a toujours existé au Sénégal au temps ancien, parce qu'avant, les marabouts attachaient les talibés pour les empêcher de fuir pour qu'ils puissent apprendre leur leçon. Donc, il y a certaines zones à l'intérieur du pays où certains marabouts pratiquent ce genre de situation sur des enfants. C'est pourquoi c'est un peu compliqué, parce que c'est une tradition qui a existé au Sénégal depuis la nuit des temps, mais les abus qui s'est déroulé au niveau du tribunal de Louga, où le marabout Cheikhou Nagui a été condamné à 2 ans avec sursis, à coup sûr, il y a une pression de la justice, on peut dire qu'il y a eu ce qu'on appelle un verdict d'apaisement.
Vous invoquez la coutume, est-ce pour dire qu'il y a une emprise religieuse sur l'autorité de l'État?
Ah ben c'est clair. Ce qui se passe aujourd'hui, ça le dit clairement. C'est clair que s'il n'y avait pas cette manifestation de talibés, s'il n'y avait pas cette intervention des marabouts sur ce qui s'est passé à Louga, ce qui est clair que ça pourrait ne pas se passer comme ça s'est passé aujourd'hui.
En quelque sorte, les parents et l'État ont démissionné de leur mission.
Oui, c'est les parents. Les parents, vous ne pouvez pas avoir votre enfant. Vous dites au marabout, je vous donne mon enfant, occupez-vous de tout de lui, vous ne participez pas à son éducation, vous ne payez pas son éducation. Pourquoi l'État du Sénégal ne fait pas des écoles coraniques, la même chose qu'il savait des écoles françaises? Recruter des maîtres, leur payer des salaires, les mettre dans des conditions, ils apprennent la religion là-bas. Je pense que les enfants qui sont aussi dans les écoles coraniques ont les mêmes droits que les enfants qui vont dans les écoles françaises.
Le calife général des Mourides, qui a l'oreille des politiques, qu'est-ce qu'il en dit clairement?
Non, le calife, il a dit que quand les gens se veulent lui raconter ce qui s'est passé avec cette histoire de marabout qui a été emprisonné suite à cette affaire de chienne passée au pied des enfants, le calife a demandé que les gens restent calmes, que de laisser lui s'en occuper, que l'État libé Mourides se calme par rapport à cette histoire, lui il va s'en occuper. Visiblement, il y a eu peut-être une discussion entre Khalifa et le pouvoir politique, parce que quand le président de la République Macky Sall était parti dans un village qui s'appelle Kayel, c'était la journée de l'élevage, il en a profité pour aller se rendre visite au Khalifa général de Mourides. À ce moment-là, je pense que la discussion était secrète, mais certainement cette question a été abordée entre les deux personnalités.
Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'interdire publiquement cette situation?
Non, c'est plus subtil que ça. Au Sénégal, le jeu entre pouvoir et pouvoir marabouté ne se déroule pas comme ça. Il y a une sorte d'entente tacite entre les deux pouvoirs dans la gestion des questions des dites sensibles. Je pense qu'ils ne vont pas interdire nommément comme ça. Ils vont essayer quand même d'essayer de gérer une situation qui se déroule entre les deux personnalités. Le Khalifa général de Mourides n'a jamais interdit publiquement ce genre de choses. Mais il y a quand même d'autres aussi marabouts, d'autres Sénégalais qui sont indignés de cette situation qui s'est déroulée avec les jeunes. Les gens demandent aujourd'hui qu'il y ait beaucoup plus de pédagogie vis-à-vis des maîtres coraniques pour qu'ils comprennent que ces pratiques surannées n'ont plus lieu d'être.
Est-ce qu'il est contre cette pratique, au moins?
Mais on n'a pas réellement, il n'y a pas réellement une position claire par rapport à ça. Je n'ai pas vu, je n'ai pas lu, je n'ai pas entendu que dire que lui-même il est contre ces pratiques de façon réelle. Il n'en a pas parlé.
C'était le journaliste Alassane Samba Diop, joint à Dakar par Eric Manirakiza.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Retour sur la lutte contre le VIH-Sida en Afrique, la région qui demeure la plus touchée dans le monde. La maladie est mieux traitée mais fait toujours de nombreuses victimes sur le continent africain. Pourquoi ? Comment également expliquer que l'épidémie affecte davantage les femmes que les hommes? Et quid des progrès réalisés depuis l'apparition du virus il y a près de 40 ans? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Retour ce matin sur la semaine mondiale du bon usage des antibiotiques. Elle a eu lieu du 18 au 24 novembre. Cette semaine a été instituée pour mener des actions destinées à réduire la résistance aux antimicrobiens RAM, dont les antibiotiques. A nommé, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, médecins, prescripteurs et vétérinaires se sont penchés sur la question. Notre correspondante à Lomé, Kaï Lawson.
Les antibiotiques étaient demandés pour des maux de tête, des maux de ventre, de la fatigue et tout cela.
C'est le constat fait dans les pharmacies au Togo. L'utilisation anarchique des antibiotiques a été la thématique abordée par les professionnels de la santé, aussi bien humaine qu'animale. À cette table ronde, les médecins prescripteurs, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens et les vétérinaires ont exposé la problématique de la RAM, la résistance aux antimicrobiens telle qu'elle se pose à leur niveau. Professeur Mounero Salou, point focal pour le suivi de la RAM au Togo, nous fait un bref aperçu des échanges.
Le chirurgien a dit, quiconque a mal à la dent qui se rend à la pharmacie, pharmacien je vous en prie, donnez-lui juste un antidouleur et référez-le vers le spécialiste. Les vétérinaires ont dit la complexité qu'elle a leur quant à la prescription des antibiotiques selon qu'on soit sur les animaux à cycle court ou à cycle long. Et les pharmaciens nous ont partagé leur expérience, pas d'ordonnance, pas d'antibiotiques. J'ai entendu quelqu'un a dit, il faudra peut-être même sanctionner.
L'usage inapproprié et abusif des antibiotiques a des conséquences assez dangereuses. Face aux effets dévastateurs de la RAM, des restrictions sont faites quant à l'utilisation des antibiotiques au niveau de la médecine animale. Docteur Cosima Labo, président de l'Ordre des vétérinaires du Togo.
Nous faisons tout pour interdire ce qu'on appelle une antibioprévention. Une antibioprévention, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas la maladie, mais on essaie d'utiliser l'antibiotique. Or, c'est justement cette façon de faire qui entraîne des problèmes de résistance.
Ayant en ligne de mire les mêmes objectifs que les vétérinaires, les pharmaciens dans les officines ne vendent plus les antibiotiques sans une prescription médicale. Docteur Dimiline Badombena Wantanimo est pharmacienne.
Nous voulons sensibiliser à un meilleur usage de ces médicaments-là parce que nous avons remarqué qu'il y a un abus. Et selon l'usage qui en est fait, la population peut s'exposer à des risques pour sa santé. Voilà pourquoi nous demandons plutôt que lorsque la population vient en officine, qu'elle soumette son besoin de santé et le pharmacien, dans la limite de ses compétences et de ses connaissances, jugera du médicament utile pour pouvoir effectivement soulager ou jugera de l'orienter vers une structure de santé pour une meilleure prise en charge.
Ces spécialistes ont fait des recommandations, au nombre desquelles l'amélioration des protocoles de prescription, la collaboration entre les professionnels et la sensibilisation de la population sur les dangers de l'utilisation anarchique des antibiotiques. La problématique de la RAM est indéniablement reliée au phénomène des médicaments de la rue, soulignent les experts. Ainsi, il recommande d'intensifier la lutte contre les médicaments de rue, ce qui constituera une bataille gagnée dans la guerre contre la résistance aux antimicrobiens. Kailosan, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Pour finir notre page magazine, retour ici aux États-Unis, une nouvelle phase dans les efforts de la Chambre des représentants en vue de mettre en accusation le président Donald Trump. Le dossier a été transmis à la commission judiciaire de la Chambre qui doit rédiger les chefs d'accusation pour que l'affaire soit jugée au Sénat. Les détails dans un reportage de Catherine Gibson, récit de Lionel Gaïma.
Après trois mois d'enquête et d'audition, la commission du renseignement de la Chambre a rassemblé les faits incriminants.
Ce rapport relate un plan du président des États-Unis visant à contraindre un allié, l'Ukraine, en guerre contre un adversaire, la Russie, à faire le sale boulot du président.
La commission judiciaire de la Chambre, présidée par le démocrate Jerry Nadler, tient une audience ce mercredi pour déterminer si les actions du président Trump sont passibles de destitution. Les démocrates ne sont pas parvenus à en fournir la preuve, estime le républicain Doug Collins.
C'est la première mise en accusation avec des faits non seulement contestés, mais aussi contradictoires. Était-ce un échange de bons procédés et y a-t-il eu une pression réelle lorsque les deux participants à l'appel, le président des États-Unis et M. Zelensky, disent tous les deux qu'il n'en était rien?
Donald Trump a qualifié les audiences de démocrates de canulars.
C'est très antipatriotique pour les démocrates d'agir de la sorte. Je pense que c'est une mauvaise chose pour notre pays.
L'opinion publique américaine est divisée sur la question, selon les sondages d'opinion. Mais pour les démocrates, l'abus de pouvoir dont s'est rendu coupable le président Trump est une grave affaire.
Sommes-nous prêts à dire que désormais nous devons nous attendre à ce que ce président et ceux qui suivront se livrent à une certaine corruption qui compromettrait la sécurité du pays et réduirait l'importance du serment présidentiel?
Une fois les articles de mise en accusation rédigés par la commission judiciaire de la Chambre, c'est au Sénat, dominé par les Républicains, que se déroulera le procès, probablement en début d'année. Au moins 20 sénateurs républicains devront se joindre à la minorité démocrate du Sénat pour démettre le président Trump de ses fonctions. chose peu probable en l'état actuel des choses.
C'est ici que s'achève le monde d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique. Un grand merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en ordre. Nous n'oublions pas toute la rédaction de VOA Afrique. À la console, Jimmy Cook, Nanit Talani à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.